RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
L'émission en français avec Inès Azagra et Guillermo Brown.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue un jour de plus à l'émission en français sur Radio Exterior d'Espagne.
Esta mañana escuché en el jardín de tu casa.
Avez-vous aimé l'émission que nous avons fait depuis Arco Madrid? Saviez-vous qu'une foire d'art similaire se tient à Paris chaque année? Si vous suivez l'émission depuis longtemps, il est fort probable que oui, car nous l'avons déjà présentée l'année dernière. Et Art Paris revient cette année avec un nouveau programme et de nouveaux artistes. Le directeur de la foire, Guillaume Pien, et trois artistes participants dans l'espagnol Nacho Corvo vont nous raconter davantage sur l'édition 2024 d'Art Paris dans quelques minutes.
Que me hubiera casado contigo, de haberme lo pedido.
À la technique Juan Morello et au micro et dans vos oreilles, Inés Azagra et Guillermo Bravo et à la production Cristina Dorado.
Y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho.
Passons au journal de l'actu sur Radio Extérieure Espagne.
Où que vous soyez.
Semana Santa, les fêtes de Pâques se terminaient dimanche et les hôteliers font le bilan.
Malgré que ça a été une Pâques très pluvieuse, les professionnels de l'hôtellerie affirment avoir obtenu des bons chiffres. Cependant, ils confirment que ça aurait pu être encore mieux. Gregorio García est vice-président de la Fédération des hôteliers andalous.
Podría haber sido una Semana Santa buenísima. La lluvia viene magníficamente para el campo y no solo para el campo, sino para el turismo. No viene
Federico Fuster, président de l'association hôtelière professionnelle Osbec, affirmait que l'occupation hôtelière était haute, mais que les mauvaises prévisions météorologiques les ont affectées.
No son datos malos, pero están por debajo del año pasado, sobre todo y no sabe sobre todo mal porque la previsión fue mucho peor de lo que luego realmente hemos tenido, porque hemos tenido la verdad que bastante buen tiempo.
Le deuxième trimestre de cette année vient chargé de rendez-vous électoraux, des élections régionales au Pays Basque en fin de mois, les régionales catalanes en mai et les élections au Parlement européen en juin. Narciso Mitjavila est le président de GAT3, une agence de recherche sociale et de communication.
No hay que descartar que pueda ser el más votado y también tener más escaños Bildu, y sin embargo no tiene garantizado el gobierno.
Sans donner de favoris, il affirme que les indépendantistes de Bildu n'arriveront pas à la majorité absolue dans les élections basques.
Es probable que el Partido Socialista de Cataluña vuelva a ganar, no lo va a hacer con mayoría absoluta.
Et même chose pour le Parti Socialiste Catalan de Salvador Illa qui gagnerait mais sans atteindre la majorité absolue. Quant aux parlementaires européennes, l'ex-ministre Margallo est clair.
La ultraderecha va a subir.
Margallo anticipe une montée de l'extrême droite en détriment des social-démocrates et des libéraux européens.
À Madrid, ce dimanche, s'est tenue une grande concentration populaire contre le racisme institutionnalisé du fait des derniers cas de violence policière envers les étrangers.
Une vidéo dans laquelle on voit une agression sans encas, motif apparemment d'un agent de police à un individu noir qui l'avait interpellé, a relancé ce débat qui commence à devenir récurrent. Le ministère de l'Intérieur évoque que l'individu agressé vendait de la drogue. Serine Mbaye, secrétaire d'antiracisme pour Podemos.
Il n'a sido por eso. Le pedimos que dimita o que Pedro Sánchez le eche.
Mbaye a nié l'accusation et a demandé la démission du ministre de l'Intérieur, Fernando Lane Marlaska. Ce dernier a déjà ouvert une investigation.
L'émission en français. L'actualité du monde hispanophone en langue française.
Temps de passer à la découverte d'Art Paris, la foire d'art contemporain de la capitale française, avec Guillermo Bravo et le directeur Guillaume Pien.
Du 4 au 7 avril, Art Paris 2024 réunira 136 galeries de 25 pays au sein du Grand Palais éphémère pour la plus grande foire d'art de la capitale parisienne. Parmi ces galeries, plus d'une vingtaine d'enseignes sont dédiées à l'art moderne, sans oublier des galeries d'art contemporain qui aujourd'hui privilégient un dialogue entre artistes contemporains et maîtres historiques. Entre figures connues et réévaluations récentes, on s'est donné rendez-vous avec le directeur d'Art Paris, Guillaume Pien, et avec trois artistes dont les œuvres seront exposées dans cette édition. Ce sont l'espagnol Nacho Corvo, l'italien Michele Cacciofera et la française Jeanne Visserial. Bonjour Monsieur Pien, bienvenue encore une fois à l'émission en français de Radio Exterior d'Espagne.
Bonjour, buenos días.
Buenos días desde Madrid. Alors commençons par voir quels sont les signes d'identité de cette édition 2024 de Art Paris.
Déjà c'est, comme vous l'avez dit, 136 galeries, mais avec une sélection qui a été extrêmement soignée, parce que on a eu quasiment 300 demandes pour 130 places. Donc c'est vrai que dans tous les domaines, on a vraiment fait très attention au projet qui allait être montré, en essayant toujours de ménager finalement des surprises. Il y a des choses qui sont plus qu'on attend dans une grande foire, enfin, donc des artistes très connus et aussi bien historiques que contemporains, mais il y a toujours ce souci chez Art Paris d'affirmer quelque chose d'un peu différent de ce qu'on voit ailleurs. Et donc ça se retrouve dans le mix des galeries où on a des très grosses pointures comme Le Long, comme Perrotin, Linerèche, et puis des galeries beaucoup moins connues. Donc ce qui nous intéresse toujours, c'est de chaque année finalement préparer une sélection qui soit différente, et avec toujours il y a toujours deux thématiques qui aussi viennent distinguer la foire, puisque ces thématiques sont différentes chaque année. Elles sont menées avec des commissaires invités, et cette année on a une thématique qui regarde qui est une lecture de la scène française, qui est donc Éric de Chassé, le commissaire, qui a décidé de faire une thématique autour des utopies, Fragile Utopie, c'est son titre, un regard sur la scène française. Et par ailleurs, il y a une sélection qui est menée par Nicolas Tremblay, qui est beaucoup plus internationale et qui concerne finalement le art and craft, donc comment les artistes se réapproprient aujourd'hui les savoir-faire artisanaux. Enfin voilà, c'est deux thèmes qui finalement irriguent cette édition et qui lui donnent aussi un trait distinctif en fait par rapport à la dernière. Voilà.
Oui, d'ailleurs, parmi les trois artistes qu'on va interviewer aussi un petit peu plus tard, Michele Cacciofera et Jeanne Visserial sont, si je ne me trompe pas, ils font partie de cette section justement de Arts and Crafts.
Voilà. Et vous avez... l'une travaillant avec le textile et l'autre avec le verre soufflé.
Ils nous expliqueront eux-mêmes un peu plus sur leur projet. Et vous avez consacré un espace spécial au surréalisme cette année, du fait du 100e anniversaire de la naissance de ce mouvement artistique. Et que peut-on espérer voir dans cette partie-là ?
Il y a différentes propositions. Enfin, celle qui... Il y en a une que je trouve qui va être magnifique, c'est une exposition personnelle qui est dédiée à André Masson, donc un des premiers aussi surréalistes avec André Breton. C'est une exposition personnelle qui est faite par la galerie Jacques Dailly et qui est en relation directe avec la rétrospective qui sera au même moment au Centre Pompidou Metz, donc puisque 2024 c'est finalement les 100 ans du manifeste surréaliste. Il y aura aussi par exemple la galerie Rotelet qui elle aborde la question du surréalisme belge avec des auteurs très connus comme Paul Delvaux, Marcel Merian, et puis aussi on pourrait parler d'une jeune galerie c'est le Bokeh, qui n'est pas très connu et qui vient juste d'ouvrir et qui va montrer notamment un dessin de Hans Bellmer de 1938 qui est effectivement très important et qui a été d'ailleurs une des œuvres charnières, clés de son arrivée à Paris et de son adhésion au surréalisme.
Et on est une radio espagnole et on a beaucoup de public espagnol, donc on va aussi vous demander un petit peu sur les artistes espagnols qu'on va pouvoir voir dans tout ce côté qui relève du surréalisme, parce que justement c'était un mouvement qui en Espagne a beaucoup percé et on a plusieurs icônes assez célèbres dans ce mouvement, donc je ne sais pas s'il y aura sûrement quelque chose de nos artistes, non ?
La présence des artistes espagnols est assez historique. Bon, on a des Picasso, et Picasso a eu une période surréaliste, évidemment. Mais là, on a une étude très rare des Demoiselles de Lévignon de 1907, donc on est déjà dans l'aventure du cubisme, avant le surréalisme, j'allais dire. Et puis après, c'est vrai qu'on a beaucoup d'artistes qui sont liés à l'art informel, donc pour moi, c'est pas vraiment le surréalisme, mais on aura évidemment des Tapies, Antonio Saura, puisqu'on a des galeries historiques qui sont Mayoral d'un côté, et puis Marc Domenech, qui sont toutes deux d'ailleurs de Barcelone.
Très intéressant. Et bon, il y a aussi une perspective en clé féminine ou féministe qui prédomine de plus en plus dans Art Paris, et en particulier dans cette édition. Nous allons voir beaucoup de figures d'artistes femmes qui ont fait un très grand travail et qui seront présentes avec, comme je dis, une présence renforcée. On parle par exemple de Sonia Delaunay et de Juliette Roche, par exemple, qui sont peut-être les exemples les plus célèbres, mais il me semble qu'il y en a beaucoup plus, n'est-ce pas ?
Bah, oui, mais j'aimerais bien m'arrêter sur Juliette Roche, parce qu'en finalement, au début du XXe siècle, en tout cas avant 1914, les deux figures féminines les plus connues, c'est Sonia Delaunay et Juliette Roche, qui est une vraie redécouverte, parce que c'est un personnage très intéressant, parce qu'elle a été mariée avec Albert Gleizes, donc celui qui a fait qui a créé le cubisme analytique. Elle a été proche de tous les cercles donc cubistes, dadaïstes. Elle est née en 1884, je crois. Elle s'est intéressée très tôt, très vite, parce qu'elle est partie à New York, à la question des minorités, des femmes. Et ce qui est intéressant dans son parcours aussi, c'est que avec son mari Albert Gleizes, elle a créé à partir des années 60, ou même avant, je crois, une des premières présidentes d'artistes en France, qui s'appelle Molly Sabatin, et qui était donc orientée vers les pratiques artisanales. Donc c'est une façon de lier l'utopie à l'artisanat, en fait.
Évidemment, si c'était une des premières à le faire, c'était encore une utopie, non?
Oui, exactement. Donc, d'où la relation entre les deux thèmes, en fait.
Il y a aussi un autre espace qui a été consacré à ce qu'on a appelé les figurations, qui met de relief la figure d'un artiste en particulier, qui est Jean Hélion, et son travail comme pionnier dans tout le mouvement de l'abstraction et curieux des avant-gardes des années 30. Alors, c'est peut-être quelqu'un que beaucoup de nos auditeurs ne vont pas connaître, donc je ne sais pas si vous pouvez nous parler un petit peu plus de ces figurations et de leur place dans les mouvements artistiques du début du XXe siècle.
En fait, c'est quelqu'un qui a un parcours aussi atypique, en fait. C'est pour ça que c'est toujours la difficulté, d'ailleurs, des figures historiques qui sont inclassables, parce que finalement, on en parle un peu moins, parce qu'on a du mal à les mettre dans une case, j'allais dire, et ça dérange un peu l'historien. Et du coup, Jean Hélion, en fait, c'est intéressant parce que c'est un des vraiment pionniers d'abstraction des années 30, et qui, au fur et à mesure, se tourne vers une figuration, surtout à partir des années 40. Et donc, c'est une galerie qui s'appelle Patrice Trigano, qui fait aussi un solo show avec des œuvres vraiment majeures, et notamment figuratives, plutôt la partie des années 60, et qui correspond exactement, son exposition personnelle coïncide avec l'ouverture de l'exposition Jean Hélion, qui est une grande rétrospective qui est consacrée au musée d'art moderne de la ville de Paris. Donc, effectivement, c'est l'occasion de redécouvrir ce travail.
Et avant de passer à connaître le reste d'artistes, connaître les artistes qui vont être présents dans cette édition, rappelons qu'on a choisi des personnes de trois nationalités différentes pour avoir un peu un aperçu de tout, un peu de cet art méditerranéen. On voulait rappeler que finalement Art Paris s'internationalise de plus en plus, avec de plus en plus de galeries venant de plus en plus d'endroits, avec de plus en plus de visiteurs, si je ne me trompe pas. Étant donné cette progression ou cette croissance continue, je me demande si vous avez déjà quelque chose, ou des buts, c'est peut-être un peu précipité, mais quelque chose que vous voulez faire pour l'année prochaine, ou quelque chose que vous pouvez nous avancer.
Déjà l'année prochaine, nous, le grand événement, c'est que on est les derniers donc à passer le Grand Palais éphémère, qui est une structure temporaire, comme vous le savez, au Champ de Mars. Et on va réintégrer donc en fait le Grand Palais, donc le Grand Palais qui a été entièrement rénové et restauré, qui réouvrira officiellement au public au moment des Jeux Olympiques, donc cet été. Et donc c'est quelque chose pour nous c'est déjà ça va être une nouvelle aventure que de revenir au Grand Palais restauré déjà. Donc c'est parce que évidemment la foire va encore grandir en volume et en qualité, et dans un lieu qui est de très grand prestige, en fait.
Évidemment. Et en plus, c'est vrai, avec les Jeux Olympiques qui sont à peine 2 mois après Art Paris, ça va être beaucoup d'activités dans la capitale parisienne.
Oui, ça correspond aussi, je voudrais vous interrompre, mais ça correspond aussi au retour de Paris, au niveau international, comme vous le savez, au débat, et à Paris, pendant un certain temps, a été distancé par d'autres villes comme Londres, Berlin, et aujourd'hui, justement, ce qui se passe, c'est que Paris devient vraiment le centre pour l'art contemporain européen, et d'où la fuite de toutes ces galeries étrangères, qui beaucoup maintenant s'installent à Paris. Donc ça, c'est un phénomène nouveau qu'on n'a pas vu, qui est quasiment historique, parce que on n'a jamais vu autant d'ouvertures de galeries étrangères à Paris. Et ça, évidemment, ça contribue à l'essor de à la fois de la ville de Paris et puis de sa foire éponyme qui est Art Paris. Voilà. Mmh.
Donc voilà, merci beaucoup pour contribuer à cet essor de Paris en tant que centre culturel qu'il a toujours été. Et que c'est vrai, à un moment, évidemment, il faut laisser aussi la place à d'autres, mais là, on la récupère. Donc merci beaucoup pour votre contribution. Bon courage pour cette édition-là. Et maintenant, on va passer à connaître les artistes que vous-même, vous avez choisis pour nous faire une idée un peu de ce qu'on va pouvoir voir dans Art Paris. Michele Ciacciofera, qui est un des artistes avec lesquels on va parler, qui participe à Art Paris. Bonjour Michele, comment vas-tu ?
Bonjour, très bien, et vous ?
Très bien, très bien, on est content de t'avoir ici. Alors, on voudrait savoir un peu sur quoi porte ton œuvre artistique, ou sur quoi est-ce que tu travailles habituellement, mais aussi en quoi consiste ta participation dans cette édition de Art Paris ?
Oui, donc l'invite de Art Paris par Nicolas Tremblay, son exposition Arts and Crafts, c'est pour une œuvre en verre. C'est une sculpture que j'avais produite en 2019 à l'atelier Segusso. C'est le plus ancien atelier de production de verre à Murano, et donc dans le monde, datant du 15e siècle. J'étais très, très fasciné par cet atelier, et donc c'est là que j'ai développé un projet qui s'appelle Tales of the Floating World, dont le nom est inspiré par un livre bouddhiste japonais du XVIIe siècle. Et la pièce en question, c'est une pièce en verre un peu circulaire, mais c'est comme une vague qui ressemble un peu à la vague d'Okusai. Et c'est une pièce qui faisait partie d'un cycle produit en 2019 qui récemment a été aussi exposé en Italie, mais pas cette pièce, que est exposée pour la première fois dans une foire. Je suis un artiste en général multidisciplinaire parce que ma pratique, dans ce cas-là, c'est une œuvre en verre, mais généralement, moi, je travaille à travers la peinture, le dessin, tout par du dessin dans ma pratique, sculpture avec plusieurs matériaux, plusieurs matières. Après, je travaille aussi bien les sons et aussi l'image, parfois avec des vidéos et parfois ça déborde aussi dans les théâtres, comme je dessine des sets, des scénographies pour le théâtre, du décor.
Donc c'est très intéressant parce que tu viens de l'Italie, c'est vrai que justement le travail du verre, c'est très commun là-bas, il y a beaucoup d'artisanat, et surtout à Murano, qui, bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une île qui est en face de la ville de Venise et qui est très connue pour une très longue tradition de gonflage de verre, voilà, de travailler le verre. Mais aussi, tu abordes cela avec un contenu qui relève un peu de la culture japonaise, non, avec cette vague de kusai, donc on est bien intéressé à voir à quoi ressemble la piste que tu présentes, franchement.
Alors, effectivement, c'est le titre qui fait référence à ces livres japonais, mais Tales of the Floating World parle plutôt d'un monde dans lequel la nature organique des choses passe, et donc du vivant, passe à travers plusieurs règnes, c'est-à-dire les règnes minérales, aussi bien que l'animal, végétal, jusqu'à l'humain. Nous, on est confronté à une crise écologique sans précédent. Et donc, c'est à cause de ça que ma réflexion m'a amené à essayer de penser aux origines du vivant. Et à travers ça, je vais dialoguer avec un scientifique, Thomas Hems August, que publiant un livre en 2019 sur les infravies. C'est un terme qu'il avait inventé et qui parlait justement de comment l'espèce, les vivants, ils se créent passant à travers des différentes natures. Et donc, toutes les sculptures qui font partie de cette série, dont la sculpture qui est présentée à Paris, un peu posent la question de qu'est-ce que c'est le vivant, que pour moi, c'est un des axes centrales de mes recherches. Bien sûr, tu parlais de mes origines méditerranéennes. Ça aussi, c'est assez central dans ma pratique artistique, dans mes réflexions. Et la question, ces questions-là, donc la question écologique, c'est particulièrement senti, comme tu sais, dans la Méditerranée. Aujourd'hui, avec la fonte des glaces, des glaciers au pôle, et la montée des eaux, la pollution de la mer, pour nous de la Méditerranée, c'était vraiment une des questions principales, aussi bien que la question migratoire. Mmh. Et donc mon travail, c'est en effet c'est assez plastique, mais en même temps c'est imprégné de toute une série de questions politiques et sociales qui sont liées de manière particulière à la Méditerranée.
Uh-huh. Du coup, un travail très engagé. Et du coup, on veut aussi savoir comment est-ce que toi, qui es italien, je ne sais pas de quelle ville tu viens.
Je suis né en Sardaigne, j'ai grandi en Sicile, à Palerme, avant d'habiter pendant 18 ans à Syracuse. Donc, je suis un fils des îles, de la Méditerranée vraiment, mais des îles plutôt. Et je me suis installé à Paris il y a 14 ans. Paris, c'est une ville extraordinaire. Je connaissais très très bien Paris. Après, il y a bien sûr des raisons personnelles pour lesquelles je suis resté à Paris. Mais c'est une ville dans laquelle c'est vraiment, si je dois dire, un épicentre de l'art. Aujourd'hui, c'est peut-être Paris. Pour plusieurs raisons, j'étais très bien accueilli par la galerie avec qui je travaille depuis longtemps, que c'est Michel Rhin, avec qui j'ai fait cette foire des Arts Paris. Dans lesquels je présente, mis à part l'œuvre en verre dont on a discuté, aussi une série des masques en céramique et aussi un tout petit tableau d'une série qui s'appelle Pathos Formel, lié à une réflexion, c'est une sorte d'invention elle aussi de Abby Warburg, l'historienne de l'art, et donc c'est quelque chose sur l'idée d'une renaissance qui revient au niveau des mémoires collectives.
Donc très intéressant, on est vraiment très intrigué par pouvoir connaître finalement ce que toi et les autres artistes ont présenté à Art Paris. Donc on se verra là-bas pour voir en personne tout cela. Merci beaucoup Michel et Tchatchouf.
Avec plaisir. Merci Guillermo. Bonne journée.
Et toi aussi.
Bonne journée à tous.
Je suis avec Jeanne Vizéréal, qui est une des artistes présentes à Art Paris. Bonjour Jeanne Vizéréal, comment vas-tu?
Bonjour, ça va et toi?
Je vais très bien, on est très content de t'avoir à l'émission en français et on voulait connaître un peu plus sur ton travail et ta participation dans Art Paris. Donc est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu fais, parce qu'on sait que tu travailles dans le textile, mais on voudrait savoir un petit peu plus en quoi consistent tes travaux.
Tout à fait. En fait, moi je viens plutôt du milieu du costume et de la mode à l'origine, et j'ai aussi une casquette de chercheuse. J'ai fait une thèse de doctorat où j'ai développé une technique qui permet de faire des vêtements sans chute sur mesure, et une machine donc plutôt liée aussi à la robotique et à l'artisanat. Et en fait, ça fait 4 ans maintenant que j'ai une pratique de plasticienne, puisque finalement mes prototypes ont commencé à évoluer et devenir des sortes de sculptures. Et donc je fais vraiment principalement de la sculpture textile depuis 4 ans, et j'utilise principalement du fil et de la corde dans mon travail. Je n'utilise jamais de tissu ni de machine à coudre, et je viens en fait comme dessiner en 3 dimensions directement dans l'espace des sortes de présences, et ce sont plutôt des sortes d'humanoïdes.
C'est très intéressant. Et comment est-ce qu'on passe de la mode à l'art purement dit, même si la mode, dans une certaine mesure, c'est aussi de l'art? Et aussi, quelle est ta participation particulière, ou quelle est ton apportation à Art Paris cette année?
Voilà. Moi, ça a été vraiment un pas. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer une résidence d'art, qui est la Villa Médicis à Rome, où je suis arrivée en tant que plutôt artisan et designer. Et c'est là que j'ai commencé en fait à laisser la pratique de la mode de côté, puisque j'avais pas envie de me positionner à cet endroit. On a suffisamment de vêtements pour s'habiller pour les 300 prochaines années sur Terre, et donc j'étais dans des problématiques face à cette industrie qui est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Et cette thèse que j'ai écrite, mais que personne ne lit, et j'ai choisi en fait de passer de la représentation mode à celle plutôt de l'art, parce que j'ai trouvé que le discours était plus clair et plus entendable de ce point de vue-là. Mmh. Et ma participation à Art Paris, elle se fait avec ma galerie, qui est la galerie Templon, qui est présentée à Paris, Bruxelles et New York. Et je présente une toute nouvelle typologie de pièce. C'est une pièce qui est entre le textile et véritablement la sculpture solide, enfin, donc avec un bronze, un buste, et en même temps un buste qui est rehabillé à l'aide d'une coiffe entièrement réalisée à la main.
Mmh, très intéressant comme notion. Et bon, on sait que tu viens du sud de la France, tu es arrivé à Art Paris, qui est une des grandes foires dans le monde de l'art dans tout le pays et aussi de plus en plus en Europe. Comment est-ce que tu as fini à Paris, et aussi, est-ce que c'est la première fois que tu participes à Art Paris?
Alors, moi, je suis arrivée à Paris à 17-18 ans, puisque c'était le seul endroit où, en fait, je pouvais effectuer des études de costume, comme je l'entendais. Donc, je suis venue à Paris pour faire mes études pour devenir costumière, en fait, à l'âge de 18 ans. Et du coup, j'y suis depuis, même si j'ai vécu dans d'autres villes et d'autres coins du monde depuis. Et c'est la deuxième fois, je crois, que je participe à Art Paris.
Mmh. Bon, bah, c'était un plaisir de te connaître, et on espère que voilà, qu'il y aura une troisième fois que tu participes à Art Paris. J'en suis très sûr, et aussi que ton travail plus conceptuel maintenant aidera à soulager un petit peu la charge polluante qu'il y a dans l'industrie de la mode. Effectivement, c'est très nécessaire, je trouve. Merci beaucoup, Jeanne. Je suis avec Nacho Corvo, c'est un des artistes qui seront présents à Art Paris, et il est espagnol, comme vous pouvez savoir par son nom, et nous sommes très contents de l'avoir à l'émission en français. Bonjour Nacho, comment vas-tu?
Bonjour, évidemment, merci bien de m'avoir invité à l'émission, je suis ravi d'être avec vous.
C'est notre plaisir de t'avoir ici. On veut te connaître un peu mieux à toi et à ton art, donc on va commencer par ce dernier. Peux-tu nous parler un peu de ce que tu fais habituellement? Et aussi de ta participation particulière à Art Paris.
Ok, donc bon, j'ai fait notamment de la sculpture. Moi, je suis plasticien et en même temps architecte. Donc, c'est un travail qui a beaucoup de voir avec l'architecture. Et donc, je travaille toujours sur l'espace, sur les matériaux. Et bon, c'est ce que vous allez voir à Paris, c'est trois sculptures en fait, et trois pièces qui font partie d'une série que j'appelle des bioarchitectures. Et en fait, c'est un travail qui a beaucoup, bien sûr, c'est disons, beaucoup à voir avec mon travail en général, que je parle plutôt du rapport entre l'architecture et la nature, entre la nature et l'architecture, pour finalement parler de comment nous, en tant que des êtres humains, nous prenons place, nous nous relationnons avec notre entourage, avec le monde. Et voilà, parce que moi, je crois que nous serons d'accord, parce que d'après moi, c'est plus, on va dire, urgent que jamais, parce que c'est évident qu'on est dans une crise, pas seulement climatique, mais dans tout le sens, indéniable. Et donc, nous devons penser à nouveau notre rapport avec le monde, avec la nature et avec notre entourage, quoi. Et donc, d'après moi, l'art a beaucoup à dire. Et c'est ça que j'essaie de faire avec mon œuvre. J'ai pensé à tout ça à partir de l'espace et de cette relation entre l'architecture et la nature, quoi.
C'est vrai que l'art est très important, parce que ça représente un peu comment les êtres humains collectivement nous percevons la société finalement, et aussi ce que tu dis sur l'importance de l'architecture dans la lutte contre le changement climatique ou contre pour le développement durable est très important, parce que quelle autre chose est plus importante que la façon dans laquelle on vit, nous?
Voilà, tout à fait.
Et est-ce que tu peux nous parler comment... Bon, ton studio, c'est vrai qu'il est en Espagne, mais tu participes maintenant dans Art Paris. Ouais. Et j'imagine aussi que tu as participé dans d'autres foires et événements internationaux. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta projection internationale, artistiquement parlant?
Bon, ma projection internationale, c'est plutôt reliée à Paris, parce que c'est toujours à Paris que je travaille au niveau international. Même si, en tant qu'architecte, j'ai fait quelque chose... d'ailleurs, par exemple, à l'Havana, etc. Mais notamment, en tant que plasticien, c'est surtout à Paris, quoi. C'est Paris, parce que c'est une ville que j'ai vécu plusieurs fois. Et donc, je me suis très, très, très attaché à Paris.
Je pense que Paris, en plus, valorise beaucoup ton travail. Et est-ce que c'est la première ou la deuxième fois, ou combien de fois as-tu participé dans Art Paris?
Non, c'est la deuxième fois, en fait, à Paris, et avec cette... sûr, à ce travail de microarchitecture et de sculpture qui parle, qui veut partager cette poétique de l'architecture, notamment cette notion de, d'abri, de refuge et en même temps de l'importance de la mémoire. Et donc, c'est la deuxième fois, comme j'ai dit, à Paris. Mais...
Mmh, super. Bah, on t'encourage pour ta présentation de cette exposition, de ces trois statues d'Art Paris. J'espère que les gens qui nous écoutent et qui auront la chance d'y aller profiteront de cette chance et iront découvrir ton art de Nacho Corvo, artiste espagnol présent à Art Paris.
Ça sera un vrai plaisir de nous rencontrer à Booth J3 avec Farijo Gallery de Madrid. Ça sera un vrai plaisir de pouvoir vous raconter un peu plus de mon travail et nous rencontrer là-bas.
Très bien. Bah, j'espère qu'ils le feront parce que c'est une opportunité unique. Merci beaucoup, Nacho Corvo.
Merci à vous. Un vrai merci.
Ma grippe vous va très bien.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez beaucoup appris sur Art Paris et son offre. Allez-y si vous pouvez, disponible du 4 au 7 avril.
Vous pouvez retrouver toutes nos émissions passées sur le site web de rtv.es ou sur votre plateforme de podcast préférée. Bisous et à très bientôt.
Souffrez que je tousse un peu, lui ai-je dit d'un air doux. Souffrez que je souffre un peu, j'ai parfois très mauvais goût. Souffrez que je souffre un peu.
Quand vous souffrez, mon ami,
m'a répondu mon amant,
vous ressemblez à la pluie, je trouve ça très saillant. Quand vous souffrez, mon ami,
j'ai un peu peur et je dis que les larmes me vieillissent. J'ai un peu peur aussi que la fièvre m'enlaidisse. J'ai un peu peur et je dis.
Elles vous vont comme un gant. Vous savez bien que vos larmes me plaisent beaucoup vraiment. Votre fièvre a bien du charme. Elles vous vont comme un gant, 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 gant.
Vraiment, je suis trop maigre, je sens que je m'affaiblis. N'avez-vous pas de vinaigre? Voyez mes bras et je dis, oh, vraiment, je suis trop maigre.
Mais ces os vous vont très bien,
m'a répondu mon amant.
Ne vous inquiétez de rien, ça vous donne un air troublant.
La mort vous ira.